C'est lundi 29 janvier 2018. Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis qui vous accompagne. Là-dessus, je vous salue, Jean-Sébastien.
Bon début de semaine à vous. Et bien, vous?
Oui, oui, vous avez mis un T-shirt, je ne sais pas si ça a un lien avec le 29 janvier, Réparer les vies.
Non, non, ce n'est pas... non, c'est une rotation de mon garde-robe, mais ce n'est pas en lien avec
D'accord.
une thématique
mais
aujourd'hui.
On peut le prendre comme ça aussi.
Absolument. Oui. Pour la petite explication, c'est un chandail de l'organisme Handicap International.
Ah oui, d'accord.
Cet organisme qui œuvre, entre autres, pour contrer les mines antipersonnelles. Mm-hmm. Et bon, ce que ça peut faire comme dommage à des victimes innocentes.
Oui. Alors, on vous écoute, mon cher.
En ce 29 janvier, événement marquant, en 1635, au nom de Louis XIII, le cardinal de Richelieu organise une société d'érudits de 40 membres qui sera l'Académie française. 29 janvier 1829, pardon, ouverture de l'Université McGill à Montréal. 1837, à Saint-Pétersbourg, l'écrivain Alexandre Pouchkine est tué en duel par l'officier français Georges Dattès. 1845, publication du Raven de Edgar Allan Poe dans le New York Evening Mirror. Mm. 1856, la croix de Victoria est créée au Royaume-Uni à l'instigation de la reine Victoria qui veut honorer de façon particulière les auteurs d'actes de bravoure. 1886, encore un 29 janvier, l'ingénieur Carl Benz obtient un brevet pour la première automobile à essence avec moteur à quatre temps. 1916, des zeppelins allemands lâchent les premières bombes sur Paris. 1946, la CIA succède à l'OSS aux États-Unis. 1950, 29 janvier, premiers incidents violents recensés dus à l'apartheid en Afrique du Sud. 1986, toujours le 29 janvier, annonce de la découverte en Nouvelle-Écosse d'un gisement de plus de 100 000 fragments d'eau de reptiles et de poissons préhistoriques. 1888, à Toronto, Ben Johnson bat le record du sprint sur 50 mètres, franchi en 5,15 secondes. Ben Johnson, qui perdra ses titres suite aux résultats positifs de dopage aux Jeux olympiques de 1988.
Le roi déchu.
Effectivement. Autre temps, autres ennemis. En 2002, George W. Bush, ancien président des États-Unis, dénonce les trois états de l'axe du mal. Donc, selon M. W. Bush, le mal réside en Corée du Nord, en Irak et en Iran. 2004, le plus grand aciériste du pays, Stelco, de Hamilton en Ontario, se place sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. 29 janvier 2006, en Saskatchewan, 72 mineurs sont coincés sous terre par un feu. Ils seront heureusement tous rescapés. En 2012, à Kingston, Mohamed Shafia, également avec sa femme et leur fils, sont reconnus coupables en lien avec la mort de trois filles de la famille et de la première femme du père pour un crime d'honneur. Finalement, en 2017, c'était donc l'an passé, à pareille date, 29 janvier, fusillade contre le Centre culturel islamique de Québec. On s'en rappelle tristement.
Et oui, il y a plein de rassemblements. On commémore le triste événement depuis 4 jours, mais aujourd'hui, c'est vraiment la date officielle où ça s'est passé, malheureusement.
Effectivement. On terminera cette chronique avec deux anniversaires de naissance. 29 janvier en 1929, naissance du pianiste, compositeur et acteur québécois d'origine française, Roger Joubert.
Mm.
Et en 1933, d'un chanteur français que je vais vous demander d'identifier, ma chère Hélène. On
D'accord.
y va comme suit. Et on essaie d'y aller comme suit.
Monsieur Cannibal.
Oui. Non, non, non. Le beau Sacha Distel.
Effectivement, Sacha Distel, né le 29 janvier 1933.
Ah, j'aime bien ce genre de devinette. Merci, Jean-Sébastien.
Avec plaisir.
À la une de la presse, armé jusqu'aux dents malgré son passé. En 1989, Charles Yacoub a détourné un autocar et séquestré ses 11 passagers à la pointe d'un pistolet devant le Parlement canadien. Des années plus tard, il possédait 17 armes à feu en toute légalité, récit d'un cafouillage. Inhalothérapeute radiée pour 6 mois, elle voulait acheter à bas prix la maison d'un patient en fin de vie. du lait maternel dans son savon, regard sur une idée surprenante qui ne laisse personne indifférent. Et art les Grammy, Bruno Mars brouille les cartes. Bon, pour régler le problème de leadership du PQ, seulement un Québécois sur dix pense que Jean-François Lisée est le chef le plus apte à devenir premier ministre. Ce constat du dernier sondage Léger, les stratèges du Parti québécois l'ont fait depuis un moment. Au-delà du programme, du positionnement, le PQ a un problème de leadership. La fébrilité suscitée la semaine dernière par la disponibilité subite de Pierre-Carl Péladeau en témoigne. C'est une analyse de Denis Lessard. Manœuvre audacieuse théâtrale, Véronique Yvon a été hier adoubée vice-chef du Parti québécois. Rien de tel n'est prévu au statut du parti, qu'à cela ne tienne, on pensait bien que le chef se devait de sortir un lapin de son chapeau pour revigorer des militants déboussolés. Ceux qui savaient que l'organisation avait dû prévoir un deuxième lutrin aux côtés de Lisée s'attendaient à une vedette surprise. Ils auront été déçus. On brasse les mêmes cartes, tandem, partenariat, tickets, toutes les étiquettes ont été utilisées hier pour décrire l'arrivée de la députée de Joliette sur un strapontin, à côté du conducteur Lisée. Le problème de Lisée à mobiliser les troupes était évident samedi. Réunis pour un cocktail en marge de leurs assises, 200 militants péquistes reflétaient bien l'indifférence de la population devant le chef. Une bonne partie de la salle continuait à bavarder, pendant qu'au micro, Lisée tentait de galvaniser la salle. Le tandem prétendait hier jongler avec cette idée depuis des mois. Curieusement, personne n'avait eu le temps de penser à son fonctionnement au quotidien. En campagne électorale, ce sera parfois Lisée, parfois Yvon, parfois les deux. C'est limité à prédire le chef. Pendant un long huis clos, les délégués ont pu parler de stratégie électorale, mais le plan de match global était déjà placardé partout. Le PQ veut un État plus présent, plus en mesure de protéger les démunis, les malades, les personnes âgées. Exclusif à la presse, Termitus poussé vers la sortie. Les jours de Tamara Termitus à la tête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, sont comptés. Québec la pousse vers la sortie a appris la presse. Une rencontre a eu lieu mercredi dernier entre Tamara Termitus et des représentants du secrétariat aux emplois supérieurs qui relèvent directement du premier ministre Philippe Couillard. Ils lui ont demandé de réfléchir à ses options selon une source sûre. En d'autres mots, toujours selon cette source, on lui a fait savoir qu'il est parfois préférable de prendre la porte soi-même plutôt que de se la faire montrer. Tamara Termitus n'aurait pas donné de réponse jusqu'ici. Dévastateur, c'est le mot qu'utilise une source gouvernementale pour qualifier les deux rapports dont fait l'objet Mme Termitus, qui est actuellement en arrêt de travail pour une durée indéterminée. Alors, juste pour terminer sur le sujet... Les choses se sont gâtées rapidement après son entrée en fonction. La presse a fait état en nous de la crise interne que la présidente a provoquée avec ses méthodes de gestion et son style de direction. L'attentat de Québec un an plus tard, l'ombre puis la lumière pour Fatoumata Diallo. C'est un texte de Gabriel Duchesne. Il y a un an, jour pour jour, Fatoumata Diallo a perdu son mari. Elle a aussi gagné quelque chose. Des fois, on a besoin d'aide et c'est dans ces moments qu'on voit qui sont nos vrais amis. Tout le monde était là, des gens de partout, des gens que je ne connaissais même pas, de Toronto, de Montréal, de Québec, des Guinéens, des Arabes, des Québécois, ça m'a vraiment touchée. On a reçu tellement d'appui, des lettres, des appels, ça nous fait sentir qu'on est là, qu'on vit tous ensemble. Même si des personnes veulent nous diviser, on voit que ça a touché les gens de toutes les couleurs et toutes les confessions. Fatoumata nous accueille dans l'appartement de son frère, situé juste en face de la grande mosquée de Québec, où est mort son mari Ibrahima Barry le soir du 29 janvier 2017. L'homme de 39 ans, père de 4 enfants de 3 à 13 ans, informaticien chez Revenu Québec, a croisé le chemin du tireur en sortant du centre islamique après la prière. Il est tombé sous les balles devant la porte dans la neige à côté de son ami et voisin Mamadou Tanou Barry, mort lui aussi. Fatoumata a attendu toute la nuit que le père de ses enfants revienne à la maison. Le lendemain, elle a attendu toute la journée de ses nouvelles. La police lui a annoncé en après-midi ce qu'elle refusait d'envisager. Elle parle d'un cataclysme. « Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. L'année a été difficile, elle ne vous dira pas le contraire, mais lentement, la tempête se calme. On essaie d'aller de mieux en mieux, ça va mieux que la première fois, j'ai reçu beaucoup de soutien, dit-elle. Les enfants aussi s'en sortent, les enfants sont parfois plus courageux que nous. On en parle beaucoup à la maison, ce n'est pas un tabou. On parle des bons moments passés avec lui, on parle de la mort, on parle de la vie après la mort, dit la maman, dont les encouragements de l'homme qui partageait sa vie lui manquent particulièrement. » Lorsqu'on lui demande si elle en veut au tireur, la discrète femme de 32 ans hésite. « Je ne veux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Au début, j'étais fâchée, mais quand j'ai vu la réaction des gens, ça m'a aidée. C'est un moment horrible et on peut faire mieux, mais on lit tous ces témoignages et ça réconforte. » Peu après la tragédie, une femme qu'elle ne connaissait pas est allée voir la directrice de l'école que fréquente une de ses filles. Elle aussi a un enfant à l'école et elle voulait aider. La directrice a mis les deux mamans en contact. L'inconnue a aidé la jeune veuve à acheter des fournitures scolaires. « On est allé faire les courses ensemble », dit Fatoumata en souriant. Plusieurs membres de la communauté musulmane ont avoué avoir peur depuis la fusillade. La mosquée est la cible de messages haineux depuis un an. En juillet, en plein cœur du débat sur l'aménagement d'un cimetière musulman à Saint-Apollinaire, le centre islamique a reçu un Coran barbouillé avec une photo d'une porcherie. En août, la voiture du président de la mosquée, Mohamed Labidi, a été incendiée. La veuve d'Ibrahima Barry raconte qu'il existe une sorte d'insécurité collective dans la communauté. C'est de l'incompréhension. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle assure toutefois ne pas ressentir plus de peur qu'avant. « Ma foi m'a beaucoup aidée là-dessus. Ça m'a aidée à garder la force et à me sentir en sécurité. » La relique de Saint-François-Xavier, normalement conservée dans une église jésuite de Rome, est en pèlerinage dans 14 villes canadiennes durant le mois de janvier. La relique est composée de l'avant-bras et de l'avant-bras droit et de la main de Saint-François-Xavier, mort en 1552. Le bras et le reste de son corps, enterrés en Aisne, sont demeurés pratiquement intacts depuis 465 ans, la croyance voulant que le corps des saints soit incorruptible. Une nouvelle image pour QS. Québec solidaire a dévoilé sa nouvelle identité visuelle hier, symbole marquant son union officielle avec Option nationale. Au terme de consultations populaires menées à l'automne, le choix s'est arrêté sur un logo qui reflète l'humain au cœur du projet de société porté par Québec solidaire, a expliqué le parti. Le logo, auparavant orange et blanc, est dorénavant orange et bleu marine. Un bleu inspiré du fleur-de-lysée, reflet de l'histoire et de la culture distincte du Québec, a indiqué QS dans un communiqué. Les procureurs au Cambodge ont accusé hier 10 étrangers, dont 2 Canadiens, d'avoir produit des images pornographiques à la suite de leur arrestation lors d'une fête dans la ville de Siem Reap, près du fameux temple Angkor Wat. Selon un communiqué publié par la police nationale au Cambodge, les 2 Canadiens accusés sont Jessica Drolet, âgée de 25 ans, et Eden Cazoleas, 20 ans. La police a indiqué avoir mené une opération jeudi dans la villa louée où les étrangers se seraient trouvés, selon les organisateurs, dans le cadre d'une tournée de bar. La police a affirmé qu'ils s'adonnaient à des danses pornographiques. Bien que près de 90 étrangers aient été interpellés, ils ont tous été relâchés, à l'exception des 10 ayant été accusés. Ces derniers risquent une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison s'ils sont reconnus coupables.
Comme si tu voulais avancer plus vite que ton corps, ta tête penche vers l'avant, les pieds dans un sable mouvant. comme si tes yeux s'étaient éteints mille ans avant leur temps. Tu restes la bouche grande ouverte face au vent. Se fêter un jour comme celui-là.
Et la tempête arrive, les oiseaux partent à la dérive.
Le compte à rebours se fera un autre jour, un autre mois. Pas t'en faire si le bonheur ne veut pas de toi. Si chaque fois que tu ouvres les bras, tout semble s'écrouler autour de toi. Non, tu ne dois pas t'en faire. Justice tôt ou tard se fera. Puis un jour le soleil rebrillera pour toi. Comme si tes yeux s'étaient éteints mille ans avant leur temps. Tu restes la bouche grande ouverte face au vent.
Monsieur Pierre Lapointe qui nous chantait Plus vite que ton corps.
À la une du Devoir de ce lundi 29 janvier 2018, une photo de Jean-François Lisée accompagné de Madame Yvon, Véronique de son prénom, le chef du Parti québécois Jean-François Lisée, en compagnie donc de la nouvelle vice-chef. Lisée appelle Yvon en renfort. Des artistes en art visuel en mal d'intégration, les artistes autochtones et ceux issus de la diversité sont confrontés à de multiples obstacles. Pour un urbanisme mieux adapté aux aînés. Hydrocarbures Anticosti, une saga de 92 millions de dollars. Théâtre, le défi éléphantesque de Benoît McGuinness, le comédien joue les vocations physiques dans L'homme éléphant. Société, industrie polluante, la mode enfile le costume éco-responsable. Le Monde, présidentiel sans risque, une chronique de François Brousseau. Texte de Catherine Lalonde, sous-représentation dans les lieux de diffusion, précarité financière, compétences non reconnues, les artistes en arts visuels autochtones et ceux issus de la diversité font face à de multiples embûches. Selon une étude commandée par le Conseil des arts de Montréal, CAM, consultés par Le Devoir, à peine 13 % des artistes qui voient leurs œuvres exposées sont autochtones ou issus de la diversité. Or, la tranche de population dont ils font partie forme désormais le tiers des Montréalais. Qui plus est, le revenu annuel moyen des artistes issus de la diversité est de 28 % inférieur à celui des autres artistes en art visuel. L'enquête montre aussi que le revenu des artistes autochtones a connu une croissance exceptionnelle en l'espace de 5 ans, passant de 17 % en 2007 à plus 22 % en 2012 par rapport aux revenus des artistes canadiens, indique l'analyse. Le revenu médian a cependant chuté, contrairement à celui des artistes caucasiens, indiquant à quel point leurs carrières sont inégales. C'est vrai qu'en art, il y a toujours eu beaucoup d'appelés et peu d'élus dans un milieu où tous jouent avec les mêmes règles. Or, le problème aujourd'hui avec les artistes autochtones et de la diversité, c'est que précisément, ils ne jouent pas avec les mêmes règles. Ils partent de plus loin, explique Jean-Philippe Uzel, professeur au département d'histoire de l'art de l'UQAM. Parfois, on a l'impression qu'ils n'arrivent même pas à rentrer dans le jeu. Et c'est ça le problème, poursuit-il. Exploration pétrolière et gazière, la saga Anticosti a coûté 92 millions de dollars. Outre cette facture, Québec absorbera aussi les coûts de restauration des puits. L'aventure hydrocarbures Anticosti a finalement coûté au moins 92 millions de dollars au gouvernement du Québec, indiquent les données compilées par Le Devoir. C'est plus du double de ce qui était prévu pour la première phase du projet qui n'a jamais été complétée. Québec a aussi accepté de prendre en charge tous les futurs coûts de restauration des puits forés sur l'île par les pétrolières. Après avoir annoncé la fin de tous les projets d'exploration pétrolière et gazière sur l'île d'Anticosti, le gouvernement Couillard a négocié l'été dernier des compensations à verser aux entreprises partenaires du projet hydrocarbures Anticosti. Petrolia a ainsi reçu 20,5 millions, tandis que Corridor Ressources recevait 19,5 millions et Morel & Prom 16,2 millions. Qui plus est, le gouvernement a choisi de dédommager les deux autres entreprises qui possédaient des permis sur l'île, mais qui ne faisaient pas partie du projet d'exploration financé majoritairement par Québec. Le montant dépensé dans l'aventure hydrocarbures Anticosti représente aussi trois fois la somme jugée nécessaire par la municipalité de l'île d'Anticosti pour mettre en œuvre son plan de développement stratégique, en incluant le projet de traversier qui permettrait d'améliorer substantiellement l'accès à la plus grande île du Québec. Le maire John Pinault évalue en effet les besoins à environ 30 millions. En entrevue, il précise toutefois que des discussions sont déjà en cours avec le gouvernement du Québec et que des rencontres sont prévues au cours des prochains jours. Aucun engagement financier n'a jusqu'ici été annoncé de la part de Québec, qui a promis de protéger toute l'île d'ici 2020, en plus de soutenir la candidature d'Anticosti à l'UNESCO. Trudeau exprime tout son appui à « moi aussi ». Plusieurs ministres libéraux se disent toujours à l'aise de siéger aux côtés de Ken Hare. En l'absence de son ministre démissionnaire visé par des allégations d'inconduite sexuelle, Justin Trudeau a réaffirmé devant ses députés réunis en caucus au Parlement son appui indéfectible au mouvement dénonçant le harcèlement et les agressions sexuelles. Il a consacré une partie du discours qu'il a livré dimanche matin à cette question, sans toutefois faire référence directement au cas du député Ken Hare, qui a remis sa démission comme ministre des Sports et des Personnes handicapées jeudi dernier. Le premier ministre a été ovationné par les membres de son caucus lorsqu'il a affirmé que les phénomènes « moi aussi » et « Time's up » étaient plus que de simples mots-clics et qu'il fallait saluer le courage des femmes qui font des dénonciations. De nouvelles normes de logement pour les ouvriers migrants. Les groupes de soutien s'interrogent sur l'application réelle de ces règles chez les producteurs agricoles. Le ministère de l'Emploi et du Développement social du Canada vient de publier de nouvelles normes en matière de logement pour les migrants agricoles afin de les uniformiser dans tout le pays. Jusqu'à maintenant, les employeurs de certaines provinces n'étaient pas tenus d'indiquer le nombre maximal de personnes pouvant habiter un logement. Les nouvelles normes devraient corriger ces incohérences, écrit le ministère de l'Emploi et du Développement social du Canada. C'est très peu et très tard, mais c'est quand même un début pour que le gouvernement du Canada prenne ses responsabilités, affirme Marie-Jeanne Van Doorn, coordonnatrice du Centre d'appui de l'Alliance des travailleurs agricoles à Saint-Rémy. Reste à voir comment ils vont s'y prendre, ajoute-t-elle, disant ne pas avoir eu connaissance d'un déploiement d'inspecteurs sur le terrain. Même son cloche du côté du syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, où certains migrants agricoles se sont syndiqués. « L'ex-président catalan en exil, Carles Puigdemont, réclamera lundi, aujourd'hui, l'autorisation de la part d'un juge espagnol de participer à une séance parlementaire devant constituer un nouveau gouvernement régional, a indiqué un législateur indépendantiste, Josep Rull. La Cour constitutionnelle de l'Espagne a déterminé samedi que M. Puigdemont devait être présent au Parlement s'il voulait avoir l'occasion d'être choisi comme dirigeant régional. Le tribunal a aussi affirmé qu'il devait, pour ce faire, demander l'autorisation d'un juge. M. Puigdemont s'est rendu en Belgique après qu'une déclaration d'indépendance par le Parlement de la Catalogne le 27 octobre eût été bloquée par Madrid. Il fait face à de possibles accusations de rébellion et de sédition en Espagne. La Finlande réélit son président sortant. Sauli Niinisto, charismatique président sortant, a été réélu dimanche à la tête de la Finlande avec plus de 60 % des suffrages, preuve que sa maîtrise dans l'art de rapprocher son pays de l'Occident sans heurter son puissant voisin russe satisfait ses compatriotes. Après le dépouillement de l'ensemble des bulletins, Sauli Niinisto rassemble 62,7 % des suffrages, selon les résultats publiés par le ministère de la Justice, reléguant loin derrière son principal rival, le candidat du Parti vert, Pekka Haavisto, avec 12,4 % des voix. Internationaux d'Australie, un 20e titre en Grand Chelem pour Federer. De retour où sa carrière avait pris un nouvel élan, Roger Federer, très ému, a pu soulever et embrasser le trophée des Internationaux d'Australie pour une 6e fois en carrière dimanche. Le Suisse a remporté son 20e titre du Grand Chelem, battant en finale le Croate Marin Cilic 6-2, 6-7, entre parenthèses 5, 6-3, 3-6 et 6-1. La deuxième tête d'affiche a battu la sixième en 3 heures et 3 minutes. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Restez avec nous dans un petit moment, une chanson et la suite de l'émission avec la revue de presse du Journal de Montréal en ce lundi 29 janvier.
On vient d'entendre Megan Cyr avec la pièce « Partir ».
À la une du Journal de Montréal, une église obsédée par l'argent. Les fidèles versent leur premier salaire de l'année. Ils cotisent pour une Porsche et une Mercedes, plus de 1000 $ pour un « miracle », entre guillemets. Des célébrités parmi les membres, l'apôtre Patrick Isaac ou Patrick Isaac, à la tête de Paroles qui libèrent, prétend enseigner le succès et la prospérité. Mais des ex-fidèles ont confié au Journal de Montréal avoir perdu des dizaines de milliers de dollars aux mains de l'homme d'affaires et sa famille. Ruiné par un gourou qui promet des miracles, c'est une enquête de 4 pages signée Camille Garnier. En transe, chaque dimanche sur la scène de son église montréalaise, l'apôtre Patrick Isaac promet des méga miracles et la réussite financière. Depuis 20 ans, des centaines de fidèles, dont des vedettes du showbiz et du sport, fréquentent son église à laquelle ils versent de nombreuses offrandes et même leur premier salaire de l'année. Mais plusieurs ex-croyants qui ont réussi à sortir de son emprise affirment avoir perdu des dizaines de milliers de dollars aux mains de ce gourou qui est en réalité criblé de dettes. Et en page 5, il y a un témoignage, ils lui ont volé 14 ans de sa vie. L'ex-fidèle Niorline Charlot dit avoir donné plus de 150 000 $ à l'église Paroles qui libère. Une mère monoparentale entrée dans l'église PQL, libère ta parole, donc c'est comme ça qu'il faut le dire, PQL, Paroles qui libère. Donc je reprends, une mère monoparentale entrée dans l'église PQL à 19 ans dit avoir pensé mettre fin à ses jours après avoir donné plus de 150 000 $ à l'apôtre Patrick Isaac et sa femme. Elle a même dû déclarer faillite avant de trouver la force de quitter ce qu'elle décrit comme une secte. Je ne me rendais pas compte, mais maintenant je comprends que c'est vraiment une secte, affirme aujourd'hui Niorline Charlot. Ces gens-là prennent le contrôle de ta vie et te coupent du monde. La Montréalaise de 38 ans raconte avoir dépensé sans compter pour plaire à l'apôtre Patrick Isaac et sa femme, la prophétesse Eliane Isaac, des gens qu'elle décrit comme contrôlants, au point où elle ne pouvait prendre aucune décision sur sa vie par elle-même. Complètement au fond du baril, la femme s'est accrochée pendant des années aux promesses de miracles de l'apôtre et sa femme, qu'elle considérait comme ses parents spirituels. Je faisais partie de ce qu'ils appellent le commando, un groupe d'une dizaine de fidèles qui doivent être toujours prêts à répondre aux demandes de l'apôtre Isaac et de la prophétesse, explique-t-elle. Parfois, je devais me rendre à l'église en pleine nuit pour effectuer des heures de prière. L'histoire de Niorline Charlot ressemble largement à celle d'une dizaine d'anciens fidèles de l'Église Paroles qui libère qui ont accepté de se confier au journal sous le couvert de l'anonymat et dont les témoignages seront publiés demain. 5 d'entre eux affirment avoir versé à PQL entre 30 000 et 140 000 $ lors de leur passage au sein de l'Église qui ont duré entre 3 et 15 ans. En 2013, Niorline Charlot a quitté PQL. Elle travaille maintenant comme secrétaire administrative à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et d'y être enfin heureuse. « J'ai l'impression de revivre », soupire-t-elle. « Là-bas, je ne pouvais pas être moi. Aujourd'hui, j'ai des projets et fais mon propre chemin. » » Le registre des armes à feu en vigueur. L'immatriculation des armes à feu sans restriction est obligatoire au Québec à compter d'aujourd'hui, mais ce n'est qu'en janvier 2019 que les corps policiers auront accès aux données du nouveau registre. Si on est capable de le faire plus tôt, on le fera plus tôt, mais on se donne une année pour faire les choses correctement et fournir un fichier de qualité avec la prise d'inventaire la plus complète possible, a indiqué le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux. La loi vise uniquement les armes à feu sans restriction, qui sont communément appelées armes d'épaule et qui représentent environ 95 % des armes à feu présentes au Québec. Elles regroupent les carabines, les fusils de chasse et les fusils mixtes qui ne sont pas des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibée. Le gouvernement fédéral a mis fin à l'enregistrement obligatoire des armes à feu sans restriction au Canada en 2012. Le gouvernement du Québec avait alors pris l'engagement de mettre sur pied un registre des armes à feu sur son territoire. L'immatriculation des armes à feu peut se faire en ligne au siaf.gouv.qc.ca. Des aînés se disent oubliés par Montréal. Ils préfèrent ne pas sortir dans la rue depuis presque une semaine de peur de se blesser en glissant. Oui, une chute sur la glace, ça peut faire mal, mais en plus, lorsqu'on est âgé, on peut se casser une hanche et voir nos conditions de vie se dégrader fortement, s'inquiète Diane Joannis. Tout comme d'autres locataires de la résidence Côte-Saint-Paul dans le quartier du Sud-Ouest, la femme de 68 ans limite ses sorties au strict minimum depuis 6 jours. L'autre jour, j'ai préféré prendre mon auto pour me rendre à 2 coins de rue plus loin, explique-t-elle. L'administration de Valérie Plante a fait son mea culpa pour avoir reporté le chargement de la neige qui devait finalement commencer hier soir. Les prévisions météo, c'était un redoux qui nous aurait permis de ne pas nécessairement faire un chargement qui, je le rappelle, coûte 15 millions de dollars, a expliqué la mairesse. Valérie Plante, hier, en confiant être elle-même tombée par terre en glissant. Madame Plante raconte avoir eu besoin d'aide pour se relever. Les ambulanciers étaient d'ailleurs débordés hier alors que le nombre d'appels pour des chutes attribuables à la glace a quadruplé, passant d'environ 10 pour une journée ordinaire d'hiver à plus de 40 en fin d'après-midi hier. La glace pourrait prendre encore plusieurs jours avant de fondre alors qu'Environnement Canada prévoit des températures autour des normales de saison jusqu'à mercredi, soit entre moins 11 et moins 13 degrés au maximum. Montréal commémore les victimes. Une dizaine de rassemblements se sont déroulés dans plusieurs endroits de la métropole hier. Certains sont venus d'aussi loin que Gatineau pour commémorer hier à Montréal la mémoire des victimes de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec et lancer un appel au mieux vivre ensemble. « L'amour est plus fort que la haine », a déclaré de son côté la mairesse de Montréal, Valérie Plante. « Le message que je veux envoyer est que nous sommes en terre inclusive où on vit en sécurité », a-t-elle souligné en compagnie d'autres élus de Projet Montréal. Une dizaine de rassemblements ont aussi eu lieu hier à Montréal, notamment à l'église Unie Saint-James et à l'église anglicane Saint-Georges. Une cérémonie de commémoration pour ceux qui ne pourront se déplacer à Québec se déroulera aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Montréal en compagnie de la mairesse qui se rendra ensuite dans la vieille capitale pour poursuivre les hommages. Exaspérées par un manque de personnel récurrent, des infirmières de l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval ont refusé à quelques reprises en fin de semaine d'entamer leur quart de travail tant et aussi longtemps que leur équipe ne serait pas complète. Ainsi, samedi matin, les infirmières aux urgences ont refusé de commencer à travailler comme prévu à 8 heures, attendant plutôt pendant près de 2 heures et demie. Leurs collègues de nuit ont été obligés de poursuivre leur quart en attendant. La même situation s'est produite à minuit et à 8 heures hier matin. C'est un SOS, c'est un appel à l'aide, a lancé Isabelle Dumaine, présidente du syndicat des infirmières, inhalothérapeute et infirmière auxiliaire de Laval. Selon elle, les équipes d'infirmières sont toujours en sous-effectif, surtout depuis 2 mois. Chaque année, on est dans la même misère, a déploré Mme Dumaine. Le café Les Nôtes de Paris a été inondé par les eaux de la Seine qui continuaient à monter hier. La Seine devait atteindre à Paris son pic de crue dans la nuit d'hier à aujourd'hui, loin de son record historique, avant une décrue qui s'annonce très lente. Le fleuve qui traverse la capitale française, enlongeant musées et monuments, devrait culminer à un niveau entre 5,85 m et 5,95 m, soit plus de 4 mètres au-dessus de la normale, selon l'organisme de surveillance Vigicru. Côté transport, 7 gares parisiennes du RER C, une des lignes les plus fréquentées de la capitale, resteront fermées jusqu'au 5 février au moins. En région parisienne, la situation s'améliorait petit à petit, alors que 1500 personnes ont dû quitter leur logement.
Enragé, qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples à finances où il ne peut entrer et par ceux des paroles où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'ossière de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils révolté, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin. Alors moi j'ai peur et j'ai crié à l'aide, au secours quelqu'un. Le gros voisin d'en face est accouru, armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes et lui casser les reins et le dos et la tête et le bec et les ailes. Alouette.
Reprenant le grand Félix, c'était Thomas Hellman avec l'Alouette en colère.
Les journaux régionaux, je commence avec Le Soleil, Annie Morin qui signe un texte intitulé « Grande mosquée, la musique pour alléger les cœurs ». Une chanson tendre sur les papas disparus, un évêque catholique à la guitare, un quatuor anglican a cappella et un alléluia multiconfessionnel. Les paroles ont pesé lourd dimanche soir au rassemblement spirituel en mémoire des victimes de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, mais la musique a allégé les cœurs. Le rendez-vous était donné à 19h au pavillon de la jeunesse sur le site d'Expo Cité. Une centaine de membres des familles des disparus et les dignitaires, parmi lesquels le maire Régis Labombe et le lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon, occupaient les premières places derrière un cordon, leur réservant un peu d'intimité. Derrière eux, près de 200 personnes remplissaient tant bien que mal la première moitié du parterre. Sur l'estrade, des proches d'Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Caleb Belkacemi, Abdelkrim Hassan, Azedine Soufiane et Aboubakar Tabti ont d'abord décrit et salué chacun des hommes tombés sous les balles le 29 janvier 2017. Sur un écran géant, leurs visages souriants. Mis de l'avant dans les témoignages, leurs efforts pour se bâtir une nouvelle vie et s'intégrer à la société québécoise. Magda, la fille du professeur d'université Caleb Belkacemi, a ouvert la voie à la musique en rappelant le spectacle Ensemble tenu au Capitole en février, un mois après la tragédie. Je me suis dit alors, voilà comment nous pouvons combattre la haine qui n'a pas sa place dans notre société, a-t-elle raconté. Puis, le professeur Martin Racine et ses élèves de jeunes musiciens du monde, à Québec, ont interprété une chanson composée spécialement pour l'occasion, « Papa tout bas », dont nous reproduisons le texte touchant de simplicité et de vérité. Les représentants des Premières Nations, de l'Église catholique de Québec, du diocèse anglican de Québec, de la communauté juive et bien sûr de la communauté musulmane, ont ensuite pris la parole à leur tour à tour de rôle, entrecoupant leur message de solidarité, de prestation musicale. L'évêque auxiliaire de Québec, Mgr Louis Corriveau, a lui-même pris la guitare pour s'accompagner. Les anglicans y sont allés d'une prière. Les porte-paroles musulmans sont ensuite revenus en force. Mohamed El-Hafid, imam de Québec vêtu d'une chemise à carreaux, a dénoncé l'acte terroriste et lâche du 29 janvier, mais aussi l'extrémisme dans toutes ses formes. Le premier garant de victoire dans ce combat contre l'extrémisme dans toutes ses formes est notre unité et solidarité citoyenne et le fait de multiplier les occasions d'échanges et de rencontres mutuelles, car les extrémistes de tous bords essaient de profiter de notre ignorance et de nos peurs, de nos préjugés mutuels pour monter une partie de la population contre une autre et faire avancer leur agenda de haine, de mépris et d'intolérance, a-t-il déclaré. On l'a entendu souvent et partout depuis un an, mais le co-fondateur du Centre culturel islamique de Québec, Boufelja Ben Abdallah, a réussi à récolter les applaudissements les plus nourris. Comment le cœur ne peut pas frémir et comment les yeux ne peuvent pas pleurer devant cette soirée, cette communion et ces belles paroles en mémoire de ceux qui sont partis, a-t-il commencé. Mais c'est en remerciant les organisateurs, le maire Régis Labeaume et le peuple québécois qu'il a soulevé la foule. Essuyant ses larmes, M. Ben Abdallah a salué le peuple québécois dans son entièreté de générosité et plein de compassion pour les siens, un exemple de résilience et qui doit être porté dans les honneurs des peuples pour la paix. Je veux remercier les Québécois. « Je suis un Québécois et je suis entier pour ce peuple », a-t-il lancé. La soirée s'est terminée avec une version française du classique « Alléluia » de Leonard Cohen, agrémentée de quelques lignes de la chanson « Everybody Hurts » de R.E.M. Dirigée par Daniel Moisan et Nancy Lapointe, la prestation était le fait d'un chœur multiconfessionnel, spontané, incluant même quelques orphelins. Quand tout a été fini après 90 minutes de communion, une dame derrière moi a bien résumé le sentiment ambiant. On aurait manqué quelque chose si on n'avait pas été là. Alors, je vais vous lire les paroles de la chanson « Papa tout bas ». J'ai perdu mon papa, perdu dans un attentat. J'ai perdu mon papa car il priait tout bas, là, là, là. J'ai peur qu'une autre fois, ça pourrait être moi. Moi, je ne comprends pas. Non, je n'y crois pas. Expliquez-moi pourquoi j'ai perdu mon papa. J'ai quitté mon pays, quitté ma belle Algérie. Pardon, laissé la guerre derrière moi, cherché la paix devant moi. Construisons-nous un abri, laissons tomber les fusils. Ne restons pas solitaires, soyons plutôt solidaires. Chanson composée et interprétée par Martin Racine, professeur, et ses élèves de jeunes musiciens du monde. The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Alléluia, oui, la très belle chanson de Leonard Cohen, chantée ici par Rufus Wainwright. Dans le droit, la chronique de Denis Graton, intitulée « De la Saint-Valentin à IKEA ». Denis, c'est la Saint-Valentin dans 2 semaines. Ah, c'est le fun ça, Manon. C'est tout ce que t'as à dire, que c'est le fun ça? Mais que veux-tu que je te dise, on ne fête jamais la Saint-Valentin. Justement, Denis, ce serait peut-être différent cette année si on la fêtait. Ça pourrait même être romantique. Et faire quoi, Manon? Je ne sais pas, moi, aller au resto peut-être ou une nuit à l'hôtel? Premièrement, Manon, les restos sont probablement déjà tous réservés pour la Saint-Valentin. Il n'y aura plus de place nulle part. Et deuxièmement, souviens-toi de la dernière fois que nous avons passé la Saint-Valentin dans un hôtel, ou un motel, devrais-je dire. De quel motel parles-tu? Comment peux-tu l'oublier? Il y a 10 années de ça. On revenait de chez ton père en Gaspésie, il neigeait et nous nous sommes arrêtés couchés tout près de Trois-Rivières au motel Jacques. Ah, mon Dieu, le motel Jacques! T'as raison, Denis. Comment pourrais-je l'oublier? C'était quelque chose, n'est-ce pas? La tête de lit en miroir avec la radio AM encastrée dans cette tête de lit. Ce même lit qui vibrait pendant 15 minutes pour la modique somme d'$1. Ouais, rien à envier au motel Quickie de la petite vie, mettons. Il manquait juste un lit en forme de cœur. J'imagine qu'il aurait fallu louer la suite pour avoir ce lit-là. En tout cas, Manon, je ne l'oublierai jamais cette Saint-Valentin. Moi non plus. Tu regardes quoi sur ton iPad, Manon? Le fil des nouvelles. Savais-tu que le fondateur de IKEA est décédé? Il avait 91 ans. Oui, j'ai vu ça, c'est triste. Mais il aura vécu une belle vie. On dit qu'il était multimilliardaire. Mais j'imagine que ses funérailles ne seront pas célébrées avant 1 semaine ou 2. Pourquoi tu dis ça? C'est le temps que ça prendra pour assembler le cercueil. Idiot! Et je te gage qu'il restera un morceau à la fin. Double idiot! Tu sais ce qu'on devrait faire pour honorer la mémoire de ce monsieur? Je ne sais trop pourquoi on devrait honorer sa mémoire, mais vas-y. On devrait aller magasiner chez IKEA. Tu trouverais n'importe quelle raison pour aller là, je vois. C'est une raison comme une autre. Oublie ça, Manon. Tu sais que je déteste cet endroit. J'aurais besoin de chandelles. J'adore leurs chandelles. Et ce serait romantique d'en allumer quelques-unes le soir de la Saint-Valentin. Ce serait mieux que rien. Pas question. La dernière fois que nous sommes allés chez IKEA, c'était justement pour tes chandelles. Juste des chandelles et on quitte que tu m'avais promis. Et tu te souviens du reste? Non, j'oublie. T'as une mémoire sélective, Manon. Laisse-moi te la rafraîchir. Nous sommes sortis de là avec une caisse de chandelles et un divan. Un sofa! No wonder qu'il était multimilliardaire, ce Suédois. Il avait trouvé le truc pour vendre des frigos aux Esquimaux et des couches au pape. On n'avait pas vraiment besoin de ce sofa, mais on devait passer devant pour se rendre aux chandelles. Puis tu l'as trouvé beau. Puis soudainement, il te le fallait, et à tout prix. Donc on l'a acheté. Alors c'est non. Plus d'IKEA pour moi. Ce magasin va me ruiner. Même pas pour honorer la mémoire du monsieur? Surtout pas pour honorer la mémoire du monsieur. On brûlera une chandelle en sa mémoire, tiens, ça suffira. On n'en a plus! Soupir. Et pour terminer, dans le Nouvelliste, Sainte-Anne-de-la-Pérade, il y avait de l'action sur la glace de la rivière Sainte-Anne ce week-end, le temps clément et les activités du premier week-end du Festival de la pêche aux petits poissons des Chenaux ont attiré des milliers de visiteurs à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Samedi, de jour, c'était complet. Il n'y avait plus un chalet de disponible, lance d'emblée Steve Massicotte, président de l'Association des pourvoyeurs de pêche aux petits poissons des Chenaux. Les activités sont très familiales et elles vont très bien. Les enfants sont tous émerveillés lorsqu'ils voient les mascottes et la saison de pêche aux petits poissons se poursuit jusqu'au 18 février. Restez avec nous dans un petit moment, une chanson, une autre, juste pour vous et aussi la suite de l'émission avec entre autres les actualités culturelles.